Alors, Mathieu, d'abord, il y a peut-être des gens qui ne savent pas c'est quoi ce fameux défi des 10 ans, le 10 Years Challenge. Tout le monde parle de ça sur les réseaux sociaux en ce moment.
Oui, et c'est fort amusant. Ça a diverti pas mal de monde, évidemment avec la fin comme ça du congé des fêtes, le retour au travail pour pas mal de personnes. Ben souvent, on retourne sur les médias sociaux, on regarde ce qui se passe. Le 10 Year Challenge, essentiellement, on publiait un montage d'une photo de nous prise en 2009 et une prise cette année. On les mettait côte à côte. C'était pour montrer finalement notre évolution en 10 ans. Tout le monde l'a fait et évidemment, on souhaite tous avoir des commentaires extrêmement positifs. Hein, t'sais, oh, tu n'as pas changé, oh, toujours le même sourire. Oh, oui, c'est ça, c'est tout. Très oui, complaisant c'est pas, comme petit défi.
Oui, c'est pas garanti qu'on va avoir des commentaires positifs.
Ben,
non, mais ça dépend de la photo aussi.
Et ça dépend aussi, je dirais, des personnes qui le font. Probablement qu'il y a quelques célébrités qui se sont butées à ce qu'on appelle des trolls, qui se sont donnés allègrement à justement les insulter lors de ce genre de publication. Mais qu'à cela ne tienne, on en a vu passer, il y en a beaucoup qui se sont amusés avec ça. Et le magazine Wired, cette semaine, exposait une problématique qui était quand même assez intéressante sous la plume de Kate O'Neill, qui explique que Facebook pourrait très bien utiliser nos photos pour aider les algorithmes de Facebook à apprendre comment un visage évolue dans le temps. Donc, avec évidemment une photo avant et aujourd'hui, eh bien, Facebook est carrément, tu sais, on a fait le travail pour Facebook plutôt que Facebook devoir fouiller dans les photos de ses abonnés pour arriver à détecter ça. Essentiellement, c'est pour améliorer la reconnaissance de visage, développer des algorithmes qui peuvent savoir comment on vieillit et utiliser à ça, ben, peut-être ultimement des technologies liées à la sécurité ou encore au marketing. Cependant, Facebook a déjà toutes les photos de nous,
ben,
déjà
identifiées.
Ouais,
oui, ils savent tout, puis ils ont toutes nos photos.
On s'est identifié dans ces photos, on a dit ça c'est mon visage, ça c'est le visage de ma mère, ça c'est le visage de mon meilleur ami, et les photos qu'on a mis là, ben elles sont datées, on a les dates de publication de ces photos-là. Donc c'est quand même, je dirais, assez particulier que de penser que Facebook est à l'origine de ce défi-là. C'est peut-être, je dirais, étiré un peu, cependant, faut toujours être bien conscient que ce que l'on publie sur Facebook, ben est analysé aussi, mais si je peux vous dire, Google en ce moment, en matière de reconnaissance de visage est assez extraordinaire.
Ouais.
Si tu vas dans Google Photos, dans le moteur de recherche...
C'est incroyable, je l'ai fait, moi, le test.
Ben, écoute, et là, toi, t'as un petit-fils. Ben, regarde bien les photos de ton petit-fils à travers les années parce que Google va lier le visage alors qu'il était naissant jusqu'à ce qu'il ait 5, 6, 7, 8 ans parce que ça m'est arrivé avec ma fille de 5 ans.
Alors, écoute,
la différence entre mes deux bébés.
Ça fait peur. Ça fait
c'est
peur.
Spécial.
Ça fait peur. La reconnaissance faciale, là, et je l'ai faite avec Google. Tim Cook, le grand patron de Apple, celui qui ne mange que des barres pour s'alimenter.
Oui.
Tu savais de ça?
une alimentation particulière.
Il ne mange que des barres énergétiques pour s'alimenter. Veut qu'on s'attaque à ceux qui possèdent nos données personnelles.
Voilà, ben donc, il y a un lien dans tout ça. Il veut finalement rendre aux utilisateurs le contrôle de nos données personnel. Et c'est dans le magazine Times qu'il écrit notamment que on mérite la confidentialité en ligne. Voici comment est-ce qu'on devrait l'avoir. En fait, il nous dit essentiellement qu'on doit protéger les consommateurs et leur rendre le contrôle. D'autres, comme lui, l'ont dit bien avant, avec les nouvelles technologies, il y a aussi une menace pour la vie privée. Et c'est pas encore trop difficile et c'est pas encore trop tard pour s'attaquer au problème. Et là, il veut qu'on s'attaque aux entreprises qui collectent les données personnelles des internautes, qui les analysent et qui les revendent par la suite, ou à tout le moins, qui vendent nos profils. Ce que Tim Cook propose, c'est qu'on devrait avoir des outils qui pourraient nous permettre de consulter ce que l'on a comme données sur nous et que on puisse supprimer gratuitement, facilement et définitivement les données que l'on veut voir être supprimées. C'est un grand défenseur des données personnelles. Et je ne sais pas si tu as suivi des activités, Paul, du Consumer Electronics Show au début du mois de janvier.
Non, je les ai pas vues.
Apple n'est pas à Vegas au Consumer Electronics Show, mais ils ont quand même acheté un panneau publicitaire sur la façade d'un hôtel 12 étages de haut, et ça disait « Ce qui se passe dans votre iPhone reste dans votre iPhone ».
Évidemment, parce que c'est le slogan de la ville de Las Vegas. Ce qui se passe à Vegas Ouais.
Reste à Vegas. Exact. Mais ce qui est intéressant, c'est que aussi 2018 a été une année difficile en matière de données personnelles et c'était un clin d'œil à tous ces géants de la techno qui se trouvaient au Consumer Electronics Show en disant « Ils vont tous vous présenter des choses, mais n'oubliez pas que chez nous, ce qui se passe sur vos téléphones reste dans vos téléphones. »
Alors Mathieu, c'est bien, je trouve ça bon comme ça.
Ah oui, c'est bon.
Mathieu, tu viens me chercher dans l'émotion. J'ai déjà eu le téléphone dont tu vas nous parler il y a plusieurs années.
Le Razer de
oui,
Motorola?
J'ai eu un Razer.
C'était
Motorola.
Un bijou de design, Paul.
Je sais. Puis avec la petite antenne qui sortait, là.
Écoutez, allez googler ça. R-A-Z-R. C'est Motorola qui avait fait ce téléphone-là au début des années 2000. Si je me trompe pas, c'était 2004. Un téléphone en aluminium qui était pliable, mais il était très mince, Paul. Parle-moi un peu du bonheur que t'avais.
Oui, ben, d'abord, il était révolutionnaire, comme tu dis. Et puis, ce qui faisait son charme, c'est que, tu sais, il avait l'air du fameux télétransporteur de Star Trek. Tu sais, qui s'ouvrait cloc, cloc, d'un coup, beam me up, Scotty.
Ah oui, oui.
Et, il y avait flip, comme... On appelait ça un flip phone.
Oui, en plein ça. Donc, il y avait un écran dans le haut lorsqu'on le dépliait et on avait le pavé tactile avec les chiffres dans le bas de l'écran. Mais ce que le Wall Street Journal avance, c'est que Motorola voudrait relancer la production de ce téléphone-là, donc pliable avec le même genre de design, au coût de 1 500 $ US. Rien de moins. Sauf que on le mettrait au goût du jour avec des composantes de dernière génération. Donc, est-ce qu'on pourrait pas avoir, par exemple, un appareil photo de bien meilleure qualité, un meilleur processeur, la connectique aussi d'autres du jour, c'est-à-dire le Near Field Communication, le Bluetooth, le Wi-Fi, mais on aurait peut-être un écran pliable.
Ah.
Donc, un véritable écran que l'on pourrait
plier. En tout cas,
plier.
T'es venu me chercher dans la nostalgie. Tu vois, c'est pas le 10 Years Challenge, c'est le 15 Years Challenge avec le fameux Motorola Razer. Écoute, je me promenais, c'est ma femme qui m'avait acheté ça, et je me promenais, j'avais l'impression d'être, tu comprends?
Ah oui, t'es en aluminium, Paul!
Je sais, très important
ouais,
à l'époque.
Ouais.
Tout est éphémère. La page Facebook.